Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invitée ce soir, la présidente du Front National. Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Vous avez succédé à votre père à la tête du FN en janvier 2011. Votre père, Jean-Marie Le Pen, que vous avez exclu du parti le mois dernier. Cette exclusion est-elle synonyme d'un nouveau départ pour votre formation? Nous en parlerons dans la seconde partie de l'émission. Il sera également, bien sûr, question des élections régionales et de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où vous vous présentez comme tête de liste. Mais avant cela, nous allons nous intéresser à la crise migratoire et à la guerre en Syrie. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Et Dominique Albertini du quotidien Libération, bonsoir.
Bonsoir.
La situation en Syrie et plus précisément la lutte contre l'organisation de l'État islamique est au centre des discussions de l'Assemblée générale des Nations unies. La Russie et l'Iran ont appelé les pays occidentaux à collaborer avec Bachar el-Assad, refus catégorique de la France. François Hollande a expliqué hier sa position à la tribune de l'ONU, on l'écoute.
On me parle d'une coalition. Cette large coalition, elle est possible, elle est nécessaire, mais cette coalition doit avoir une base claire, ou alors elle ne verra jamais le jour. Cette base, elle a été donnée à Genève, il y a plus de 3 ans déjà. C'est un gouvernement de transition, incluant des membres du gouvernement, l'actuel, et de l'opposition, à partir d'un consentement mutuel. Eh bien, voilà la base, utilisons-la, avançons. J'en vois qui... déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution.
On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Vous comprenez la position de François Hollande, Marine Le Pen ?
Non, je pense que le gouvernement français commet une erreur extrêmement lourde, qui n'a pas appris d'ailleurs des erreurs du passé, puisqu'il recommet toujours les mêmes. Je pense que Laurent Fabius a mis tout son poids dans la balance, car les déclarations de François Hollande ont été pour le moins divergentes dans les derniers jours. Il disait que la France ne fermerait la porte à personne, notamment qu'il pourrait faire une coalition avec la Russie, puis il est revenu en arrière. Notre politique... internationale est une succession d'hésitations, de fautes grossières.
Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ces hésitations quand on voit la figure de Bachar el-Assad, qui est à l'origine de la guerre civile qui secoue son pays, 240 000 morts aujourd'hui, il est accusé en plus de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on peut encore discuter avec lui?
Mais on n'a pas le choix. Ah, c'est à un moment donné, il faut dire la vérité. Nous n'avons pas le choix. Moi, je ne suis pas un défenseur de Bachar el-Assad. J'ai jamais reçu, comme l'ont fait beaucoup de dirigeants français, dont Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Mais en l'occurrence, il est l'État en Syrie, et il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. C'est soit l'État syrien, soit l'État islamique.
Il est l'État.
Alors, je préfère l'État syrien à l'État islamique. Je pense que c'est la politique du moindre mal. Je le dis d'ailleurs depuis 3 ans. Donc, on ne peut pas dire que je cours après l'actualité. Le Front National a été le seul à dire depuis le départ que nous commettions une erreur majeure en soutenant des rebelles dont on nous a dit qu'ils étaient épris de démocratie et dont on s'est aperçu qu'en réalité, ils étaient dans leur immense majorité constitués de fondamentalistes islamistes.
Roselyne Fèvre.
Donc, vous êtes sur la ligne pragmatique de Poutine.
Poutine est sur la mienne, peut-être.
Peut-être que vous l'avez influencé.
Ah, je dis pas ça, non.
Oui, parce que il y a deux lignes. Celle qui considère qu'il faut effectivement une coalition, mais avec un préalable, c'est la position de François Hollande, un préalable qui est après on se débarrasse de Bachar el-Assad. Est-ce que vous considérez qu'il faut séquencer les deux, ou vous dites on attaque, on fait partie de la coalition, on voit après, ou vous dites on ne faut pas toucher à Bachar après?
Non, mais de toute façon, la vraie question, c'est pour l'instant lutter contre l'État islamique. Or, Bachar el-Assad est celui qui aujourd'hui lutte contre l'État islamique. Donc, il faut faire une coalition avec Bachar el-Assad. Ça, c'est une évidence.
Et
nous
après,
le disons encore une fois depuis
compris,
longtemps.
Après,
c'est au peuple syrien de décider. Parce que, encore une fois, est-ce qu'on apprend des erreurs du passé? Nous avons fait la même opération en Libye. Ils sont arrivés, BHL, chemise ouverte et cheveux au vent, avec Nicolas Sarkozy dans son sillage. Ils ont mis au pouvoir les soi-disant rebelles épris de liberté. Et en fait, de rebelles épris de liberté, eh bien, il s'agissait de fondamentalistes islamistes qui ont mis en place la charia et qui ont livré ce pays au chaos, à la guerre ethnique,
mais
à l'épuration religieuse.
Marine Le Pen, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le danger là de remettre Bachar el-Assad au centre du jeu? Et c'est-à-dire que demain, si la France travaille pareil avec Bachar el-Assad, est-ce qu'on ne le remet pas dans le jeu ?
Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? Et vous avez raison de le dire comme cela, car c'est ce que pense François Hollande. C'est-à-dire qu'il préfère entraîner la chute de Bachar el-Assad, quitte à ce que ce soit l'État islamique qui gagne la Syrie, qui gagne la tête de la Syrie, avec toutes les conséquences que ça va avoir, où l'ensemble des pays autour risquent de tomber comme des dominos. C'est à cela qu'on veut jouer ? Eh bien, moi, je trouve qu'il s'agit là d'une folie, que nos dirigeants jouent aux apprentis sorciers, qu'encore une fois, ils ont commis les mêmes erreurs par le passé. On a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Est-ce qu'on va arrêter cette folie ou est-ce que l'on va continuer jusqu'à ce que la poudrière nous explose à la tête ?
Mais Bachar el-Assad a comme ami l'Iran, donc une théocratie. Est-ce que il faut prendre le risque,
il faut mettre tous ceux qui veulent lutter contre l'État islamique autour de la table. Alors moi, je veux bien que l'on ait des considérations morales, mais à ce moment-là, il faut pas qu'elles soient à géométrie variable. Voilà, parce que au moment où on nous explique que l'Iran est une théocratie, on permet que l'Arabie Saoudite prenne la tête du panel des droits de l'homme au même moment où il condamne
mais
à mort.
Sujet, pour avoir d'une guerre entre chiites et sunnites, un gamin
qui a manifesté à l'âge de 17 ans et qui est condamné à être exécuté et que ses chairs pourrissent, etc. Non mais honnêtement, il faut à un moment donné être cohérent. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut mettre autour de la table toutes les nations qui veulent lutter contre l'État islamique, car l'urgence, le gigantesque danger est là, et la défense des intérêts de la France et des Français, c'est précisément d'arriver à abattre l'État islamique.
Mais Marine Le Pen, on l'a entendu, François Hollande l'a dit hier soir, les autorités françaises sont d'accord pour discuter d'un gouvernement de transition qui inclurait des membres du gouvernement actuel, donc de l'équipe de Bachar el-Assad et des membres de l'opposition. Pour vous, c'est pas donc possible de discuter avec l'Iran et avec la Russie sans exclure Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, on a l'impression qu'on peut pas, on peut pas s'en passer aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de l'État syrien. Enfin, écoutez, on va jouer comme ça. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas où on fait rentrer tel ou tel joueur dans la partie. Il y a aujourd'hui un État qui est en guerre, dans une guerre qui est une guerre terrifiante contre un ennemi qui est un ennemi extrêmement puissant, car l'État islamique est extrêmement puissant. Donc, il faut faire urgemment plusieurs choses. Une coalition de l'ensemble des pays qui veulent lutter contre l'État islamique. 2, il faut couper les financements, les sources de financement de l'État islamique. 3, il faut couper les armements qui arrivent à l'État islamique, car sinon, nous n'arriverons pas au bout de cette dramatique organisation qui, permettez-moi de vous dire, quand même est une organisation tout à fait barbare.
Dominique Albertini.
Mais dans quelle mesure un dirigeant dont la répression a fait plus de victimes que Daesh peut être une partie de la solution au problème ?
Oui, mais ça, on répète ça en boucle. Enfin, excusez-moi. On répète ça en boucle. Il n'en demeure pas moins que si, dès le départ, lorsque Bachar el-Assad a dit « Je suis confronté au terrorisme fondamentaliste islamiste », on ne l'a pas cru. On n'a pas voulu le croire. Qui s'est trompé ? Lui qui disait cela ? Ou les capitales européennes qui pensaient qu'elles savaient mieux que Bachar el-Assad ? La réalité était que il était bien confronté au fondamentalisme islamiste terroriste. Voilà. Et donc, il a combattu avec les moyens qui étaient les siens contre ce fondamentalisme islamiste. Y a-t-il eu des morts civiles ? Sûrement. Mais on a l'impression, quand on écoute les radios et les télévisions françaises, que l'État islamique n'a pas fait un mort et que l'ignoble Bachar el-Assad, lui, s'est attaqué à sa population civile. Pourquoi Bachar el-Assad se serait-il attaqué à sa population civile ? Vous pouvez me le dire ? À part parce que les fondamentalistes islamistes, très souvent, comme c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs, se planquent au milieu de la population civile.
Comment vous prenez le fait que Vladimir Poutine défende comme ça bec et ongle Bachar el-Assad en envoyant d'ailleurs des matériels, des soldats sur place du côté de l'attaqué ?
Mais parce que Vladimir Poutine sait pertinemment qu'il en va de l'intérêt de son pays. Et que,
quels sont ses intérêts d'ailleurs, à votre avis ?
Mais pardonnez-moi, l'intérêt c'est d'abord d'éviter la propagation du fondamentalisme islamiste en Russie.
Dans le Nord-Caucase notamment.
Mais bien sûr, c'est sa première préoccupation. Il intervient à partir du moment, et je crois que c'est une décision sage où les intérêts de son pays sont directement mis en cause. Ce qui est malheureux, c'est qu'en France, ça n'est jamais comme cela que ça se passe.
Oui, il y a une troisième, il y a plusieurs points. Il y a effectivement les intérêts stratégiques. Vous venez de citer le deuxième, ce qui est des raisons intérieures. Il y a trois, il y a la diplomatie russe ne veut pas non plus qu'on vienne dicter, il bétonne le principe de souveraineté nationale. Qu'on vienne pas, il considère qu'on n'a pas à mettre Bachar dehors, parce qu'un jour on pourrait lui dire à lui, eh bien, qu'il n'est pas spécialement...
Non, c'est absolument pas une histoire de précaré. C'est toute une vision du monde, et notamment une vision du monde multipolaire, fondée sur la souveraineté des nations. Il est vrai que le concept américain, hein, que nous avons suivi d'ailleurs avec aveuglément, que l'on a suivi aveuglément, qui consiste à aller se faire le gendarme du monde et à aller faire le mercato des dirigeants. Celui-là nous plaît pas, on le retire. Celui-là nous plaisait, il nous plaît plus, on le retire. Celui-là, on l'assassine. Eh bien, a en réalité propagé la terreur, l'horreur, le chaos, l'épuration religieuse dans des pays de plus en plus nombreux. Donc, il est peut-être temps de tirer, encore une fois, les conséquences de ces erreurs et d'arrêter de vouloir, en toutes circonstances, décider pour les peuples ce qui est bon pour eux.
Marine Le Pen est l'invitée ce soir de Mardi Politique sur RFI. Une dernière question sur ce sujet très rapide. La France a frappé en Syrie pour la première fois dimanche. Vous pensez qu'il est possible de vaincre l'organisation de l'État islamique sans intervention au sol ?
Oui, je le crois. Oui, je le crois. Encore faut-il qu'il y ait des préalables dont j'ai parlé tout à l'heure, couper les sources de financement et couper les sources d'armement et permettre à l'armée syrienne qui est sur le terrain, et il est normal qu'elle soit sur le terrain, lui faciliter la tâche précisément en accord avec elle et en répondant aux besoins qui sont les siens en matière de frappe aérienne ou autre d'ailleurs, hein, ou autre.
Allez, on parlait là de la guerre en Syrie. L'une des conséquences de ce conflit, c'est donc l'arrivée en Europe de dizaines de milliers de réfugiés syriens et irakiens.
De centaines de milliers.
Alors, de centaines ou de dizaines de milliers pour l'instant. On en est à 500 000 depuis le début de l'année. 500 000, donc quelques dizaines, quelques centaines de milliers.
Non, on en est à 500 000. Et les institutions internationales disent qu'en 2015, à la fin de l'année 2015, il y aura 1 million de personnes qui seront arrivées.
Alors, l'Union européenne s'est accordée la semaine dernière sur la répartition de ces demandeurs d'asile. Et dans ce cadre, la France n'en accueillera pas plus de 30 000. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière Manuel Valls. On est un petit peu loin de la submersion migratoire dont vous ne cessez de parler pour la France, Marine Le Pen.
Ne soyons pas ridicules. Les quotas qui sont aujourd'hui imposés par l'Union européenne ne correspondent absolument pas à l'importance de la vague migratoire. D'ailleurs, vous faites le calcul des quotas, un pays plus l'autre pays plus l'autre pays, vous apercevrez qu'on n'arrive pas à 500 000. Donc c'est
23 000
de plus. Mais c'est ridicule.
L'Allemagne en a pris plus que les autres, pour l'instant.
Mais c'est ridicule. Nous savons pertinemment que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont présentes aujourd'hui dans l'Union européenne, qui, à partir du moment où ils sont dans un pays de l'Union européenne, vont pouvoir aller dans n'importe quel autre pays, puisqu'il n'existe plus de frontières au sein de l'Union européenne. Ça s'appelle Schengen. Nous réclamons la fin de Schengen depuis des années et des années, parce que nous avions prévu des dangers de ce type. Et donc, ces quotas, cette distribution de quotas, relèvent juste de la communication de la part de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été votés et par le PS et par l'UMP, qui pourtant, c'est cette dernière, pourtant indiquant au national qu'elle est contre les quotas. Elle est contre les quotas quand elle est en France, mais quand elle est au Parlement européen, l'UMP les vote.
Vous parlez de submersion et d'invasion, dans quelle mesure ça décrit exactement la réalité qu'on vit, qui n'est manifestement pour l'instant pas une submersion ni une invasion?
Ça, c'est vous qui le dites, c'est votre analyse.
Les submersions et l'invasion
sont vos mots. Moi, je pense que lorsqu'un million de personnes arrivent, et que ce million de personnes sont 4 fois plus que l'année dernière, car l'année dernière, c'était 230 000.
Alors, pour l'instant,
cette année, c'est 1 million.
Pour l'instant, on est cassé 100 000.
Pardon, il y a tout à craindre que l'année prochaine, ce chiffre puisse également être multiplié par 4.
Invasion qui évoque une hostilité, quelque chose de dirigé, de
submersion migratoire.
Non, mais j'ai parlé de submersion migratoire. Oui, nous sommes dans un phénomène de flux migratoire qui révèle une véritable submersion migratoire. Si l'année prochaine, comme je le pense, ce sont 3 à 4 millions de personnes qui arrivent...
3 à 4 millions, vous dites, pour l'année prochaine?
Mais oui, parce que l'année dernière, c'était 230 000. Cette année, c'est 1 million. À partir du moment où on lance le signal...
Et vous basez sur quoi pour donner ces chiffres-là? Vous basez sur une étude?
Non, mais monsieur, ce sont les chiffres, pardonnez-moi, ce sont les chiffres des institutions internationales.
Donc, 3 à 4 millions?
Non, Je vous dis, l'année dernière, c'était 230 000.
D'accord.
D'accord.
Là, on est à 500 000.
Cette année, c'est 1 million. Non, ce sera 1 million à la fin de l'année.
Pour l'instant, on est à 500 000.
Non, nous étions à 500 000 début septembre. Il reste septembre, octobre, novembre, décembre.
On verra à la fin de l'année si vous le voulez bien. Pour l'instant, on est à 500 000.
Mais en l'occurrence, encore une fois, ce sont des prévisions des institutions internationales.
Mais les 3-4 millions.
Eh bien, je vous dis, mais monsieur, écoutez, ne faites pas de bagarre de chiffres. En 2011, quand j'étais à Lampedusa, il n'y en avait que quelques milliers qui arrivaient et j'ai dit, si on continue à accepter ces clandestins sur le territoire de l'Union européenne, ce sont des centaines de milliers qui arriveront. J'ai été traîné dans la boue pour avoir dit ça. On m'a traité de tous les noms. On m'a dit que j'étais ridicule, grotesque, que j'exagérais. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Moi, mon boulot, c'est de prévoir. Et je prévois que compte tenu de l'appel d'air que crée l'accueil de ces clandestins dans l'Union européenne, eh bien, ce chiffre peut être multiplié par 4 l'année prochaine. Voilà. Je l'annonce, c'est mon job. Vous avez le droit de le contester si vous le voulez. Et je reviendrai l'année prochaine. On en reparlera.
Rosine Fèvre.
Votre père a dit pendant longtemps que, en quelque sorte, les immigrés mangeaient le pain des Français. C'est-à-dire que...
Non, enfin, il avait une pensée un tout petit peu plus aboutie que celle-là.
Oui, je résume. Mais...
Ah oui, ça, clairement, oui. Ça,
non, enfin bon, la priorité et la préférence nationale, voilà, c'était la France aux Français, c'est pas moi qui...
Non, la France aux Français, ça n'a jamais été un slogan du Front National. Nous, c'est les Français d'abord.
Vous avez beaucoup dit que les immigrés voulaient profiter des aides. Aujourd'hui, on voit, ils ne veulent pas venir en France.
Bien sûr, mais vous racontez ça sur tout. Mais c'est incroyable. Vous racontez ça sur tous les plateaux. Ils ne veulent pas venir en France. On les attire et ils ne veulent pas. Mais écoutez, ouvrez les yeux, allez dans les campagnes, voir le nombre de réfugiés qui sont aujourd'hui amenés dans des villages, dans des centres d'accueil de réfugiés, allez voir sous les campements illégaux qui se constituent au centre même de Paris et que l'on évacue discrètement au petit matin, allez regarder la réalité en face, car vous êtes totalement déconnectés de cette réalité. La réalité, c'est que ce sont, encore une fois, des milliers, des dizaines de milliers, et demain, ce seront des centaines de milliers de personnes qui arrivent. Parce que la France est extrêmement généreuse à l'égard des clandestins. Non,
mais en même temps, Marine Le Pen, ça fait des années que vous nous dites, je vais y arriver au Front National, qu'il y a cette submersion, cette invasion migratoire. Votre père le disait il y a 30 ans, 40 ans.
Mais monsieur, la France a accueilli un nombre d'immigrés absolument considérable. Nous avons accueilli, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et ça a continué sous le mandat de François Hollande, 200 000 entrées légales par an. Donc M. Hortefeux vient dire aujourd'hui que probablement il y en avait autant d'illégaux. C'est 400 000 personnes par an, et vous trouvez-vous que c'est pas une submersion? Eh bien moi je le crois. Voilà. Moi je considère que ce nombre est impossible à digérer, qu'on a depuis très longtemps atteint le seuil de saturation, que la générosité de la France en termes d'accueil, de logement d'urgence, d'aide sociale, d'aide médicale d'État, de prise en charge de l'éducation des enfants ne peut plus peser aujourd'hui sur la société française.
Est-ce que vous avez vu la position de l'Église sur le sujet? Le pape et l'Église catholique française a appelé les catholiques à accueillir des familles, des réfugiés.
Mais il est dans son rôle, le pape.
Mais vous êtes
un chef religieux. Moi, je suis un chef politique.
Et vous êtes, vous l'avez dit, vous êtes chrétienne.
Mais
la charité chrétienne. Mais est-ce que il y a le message politique et il y a la femme.
Mais c'est vrai.
La charité.
D'ailleurs, vous allez nous donner les clés de votre appartement, hein, pour pouvoir les donner immédiatement, l'ouvrir immédiatement à une famille de réfugiés. Voilà. Moi, je suis là pour prévoir et régler les gigantesques problèmes que sont en train de poser à la France le laxisme, la faiblesse.
Vous n'avez pas répondu, est-ce que la chrétienne est en accord avec ce que vous dites, votre message politique?
Mais parfaitement, madame, car si vous voulez qu'on rentre dans un grand débat, on peut le faire sur la position de l'Église, mais l'Église a toujours considéré qu'un pays avait parfaitement le droit de déterminer des règles d'immigration et notamment de refuser une immigration si elle ne pouvait pas l'assumer. Eh bien, aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'assumer.
Marine Le Pen, juste en 20 secondes, vous allez aller à Calais vendredi, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle va être la teneur de votre discours? Est-ce que vous allez faire comme Robert Ménard qui a stipulé aux réfugiés de sa ville qu'ils n'étaient pas les bienvenus?
Non, je vais parler d'immigration. Je vais évoquer les problématiques que pose la multiplication de ces clandestins qui pourrissent la vie des habitants, il faut le dire quand même. Hein, parce que la vie des habitants de Calais et du Calaisis, c'est un véritable cauchemar dont personne ne parle, car il y a beaucoup d'associations pour pleurer sur le sort des clandestins qui, après tout, ont décidé de venir ici. Mais il y en a assez assez peu, il faut l'admettre, pour pleurer sur la situation des Calaisiens qui, eux, vivent au quotidien cette situation.
Merci beaucoup Marine Le Pen. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes pour parler des élections régionales et de votre parti, le Front National. À tout de suite.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi politique, notre invitée ce soir, Marine Le Pen, présidente du Front National. On parlait de la crise migratoire en fin de première partie. Une précision, Marine Le Pen, concrètement, comment faire pour renvoyer ces réfugiés chez eux, puisque apparemment vous voulez les renvoyer, et comment régler le problème de la crise migratoire aujourd'hui?
Bon, d'abord, il faut qu'ils ne viennent pas. C'est déjà un bon début, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la France ne soit pas attractive. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que s'ils viennent, ils n'auront rien. Rien. Plus rien de ce qu'ils avaient jusqu'à présent.
Et donc ce sont des réfugiés politiques qui viennent de pays de guerre, donc vous les renvoyez dans des pays en guerre.
D'abord, excusez-moi, mais on va essayer d'être un tout petit peu précis. Le fait d'arriver d'un pays en guerre ne vous donne pas le droit au statut de réfugié politique. D'accord? Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Le droit d'asile, politique, c'est quelque chose de très particulier où il faut que vous démontriez à titre personnel que vous êtes persécuté par le gouvernement à titre personnel, le gouvernement de votre propre pays.
Donc, je pense que le nombre de gens persécutés par le gouvernement de Bachar el-Assad, par exemple, ça rentre dans ce cas-là.
Oui, il y a un certain nombre de fondamentalistes islamistes qui probablement peuvent réclamer le statut de réfugié.
Et ceux qui font partie de l'opposition syrienne ou qui sont de cette famille menacée.
Permettez-moi de vous dire que je pense que ceux qui rentrent dans ce cas-là sont une ultra minorité de ceux qui aujourd'hui arrivent dans l'Union européenne. Voilà. L'immense majorité de ceux qui arrivent viennent pour des raisons économiques. Ils viennent parce que
les chiffres vous donnent tort sur le sujet. Hein.
Ah bon, c'est-à-dire
les chiffres du HCR là-dessus, a priori, sur les 500 000 migrants dont on parlait tout à l'heure, eh bien ces 500 000 migrants, a priori, viennent surtout de Syrie, d'Irak, et a priori, ce sont plutôt des réfugiés politiques que des migrants économiques.
Mais permettez-moi, personne n'en sait rien, et pas plus le Haut Commissariat que les autres. Personne n'en sait rien. Car ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il existe énormément de faux papiers syriens. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de gens qui viennent de pays sûrs. Et d'ailleurs, on en parlait, Madame Merkel vient de décider de renvoyer tous ceux qui venaient de pays où il n'y avait pas la guerre chez eux. Ça prouve qu'il y en a quand même un certain nombre. Pour le moins, je pense qu'on a créé, encore une fois, une opportunité. C'est-à-dire que ceux qui souhaitaient venir dans l'Union européenne se sont dit, bon ben, là, il y a énormément de monde qui arrive. Il faut que je me glisse, en quelque sorte, dans ces flux pour pouvoir y arriver.
Alors, comment on ferme les frontières comme le fait Monsieur Orban?
Ah oui, comme le fait Mme Merkel aussi.
Alors Mme Merkel l'a fait pendant quelques jours, mais Monsieur Orban
C'est faisable.
Monsieur Orban le fait depuis le début de la crise.
Ah, je suis contente parce que moi, pendant des années, quand j'ai réclamé à ce qu'on contrôle les frontières, on m'a dit que c'était pas possible. Et quand Mme Merkel le fait, tout le monde trouve ça génial. Eh bien, je vais faire comme Mme Merkel. Je maîtriserai nos frontières.
Oui, mais
au fond,
en accueillir quelques-uns, Marine Le Pen.
Je mets en place une politique dissuasive d'immigration. J'arrête tout ce qui fait venir.
Donc ça veut dire que vous allez en accueillir.
Écoutez-moi.
Aussi,
parce que Madame tout ce qui fait venir les clandestins en France. Je contrôle mes frontières. Je ramène ceux qui n'ont pas le droit d'être en France dans leur pays d'origine.
Et vous autorisez
l'armée
autorisez l'armée et la police à tirer comme l'a ordonné Viktor Orban.
Mais monsieur, moi je ne suis pas monsieur Orban. Si monsieur Orban, qui est le dirigeant de Hongrie, considère qu'il est nécessaire de voter cette loi pour pouvoir préserver la sécurité du pays, c'est son problème. Voilà.
Mais
c'est
dites-moi, Marine Le Pen, vous ne contestez pas la notion de droit d'asile, tout de même.
Mais je ne conteste pas la notion de droit d'asile. Je dis que ce droit d'asile a été totalement dévoyé, qu'il a été élargi au point d'en faire une nouvelle filière d'immigration.
J'entends bien, mais s'il est prouvé.
Alors, je mettrai en place des critères. Je reviendrai aux critères qui sont des critères restrictifs du droit d'asile. Et si le droit d'asile, le droit d'asile est prouvé, alors la personne bénéficiera du droit d'asile. Vous savez, le droit d'asile a augmenté de 75% sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc ça prouve quand même que il y a des signaux qui ont été lancés comme quoi ce droit d'asile avait très largement dépassé, encore une fois, ce qu'il était à l'origine.
Mais vous savez bien que c'est très compliqué pour faire une enquête entre un migrant qui vient pour des raisons économiques ou un migrant qui vient, par exemple le père du petit Alan était dans un camp en Turquie.
Et
voilà, on va dire là, c'est pas un joli mot, mais la traçabilité d'une personne. Est-ce que c'est pas un peu compliqué?
Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour s'occuper de regarder ces dossiers-là et d'analyser ces dossiers-là, madame.
Allez, on va en venir aux élections régionales puisque le ton tourne. On va parler de ce scrutin de décembre. Hein, où vous êtes candidate en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce statut de favori, vous êtes donné favorite aujourd'hui par tous les instituts de sondage. Ce statut de favori, ça change quelque chose dans la façon de faire campagne, Marine
Non,
Le Pen ?
Non, absolument pas. Ça ne change strictement rien. La campagne se fait sur le terrain des idées. Nous allons proposer et nous proposons un projet aux habitants de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Nous pensons que cette région a été particulièrement mal gérée puisqu'elle est socialiste depuis l'origine et qu'il y a un vrai désir d'alternative dans cette région. Et il se trouve que nous apparaissons comme ceux capables d'apporter aux habitants plus de rationalisation de la gestion dans la région, plus de respect de l'argent public, plus une attention plus particulière à la sécurité, plus de développement économique.
Une victoire du Front National, c'est ça que ça changerait concrètement pour les citoyens plus.
Oui, bien sûr que ça changerait concrètement. Bah, bien entendu. Ou alors vous considérez que la politique ne sert strictement à rien et que tout le monde est interchangeable. Moi, je crois que les gens ne sont pas interchangeables. Nous l'avons démontré dans les municipalités. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. On nous a dit, là encore, c'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Eh bien, dans les villes Front National, les impôts ont été stabilisés ou ont baissé, alors que je note que dans l'immense majorité des villes UMP ou PS, ces impôts ont augmenté. La sécurité a été améliorée, les centres-villes ont été revivifiés, au point que, semble-t-il, d'après les études, les habitants des villes Front National sont particulièrement heureux de la gestion de leur ville.
Dans les régions, vous feriez quoi précisément ?
Alors, vous avez deux heures devant vous.
Non.
Alors précisément,
les 4-5 mesures phares.
Non, il n'y a jamais une mesure forte sur un territoire aussi grand que la Picardie Nord-Pas-de-Calais. Il y a toute une série de politiques à réorienter. La première, c'est d'abord d'arrêter de dilapider l'argent public. Voilà. C'est-à-dire que chaque euro dépensé doit être un euro qui est dépensé au bénéfice des habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Et croyez-moi, on en est très loin.
Moins de gaspillage, moins
deuxièmement,
de
fonctionnaires. Non, mais moins de gaspillage et moins de coopération décentralisée, ouais. Où on va faire des campagnes de prévention du paludisme pour les prisonniers de Saint-Louis du Sénégal. Vous voyez, bon, je pense que c'est assez éloigné, honnêtement, de l'intérêt régional. Bon, deuxièmement, il faut mettre en place la priorité pour les entreprises régionales dans les marchés publics. Ça, c'est évident. Il faut manger français dans les cantines. Il faut permettre aux entreprises régionales d'accéder au marché public parce que la moindre des choses, c'est que l'argent public serve à protéger, à préserver et à défendre l'emploi dans nos régions et pas l'emploi dans les pays étrangers. Il faut revoir intégralement la formation et l'apprentissage. Aujourd'hui, clairement, ni la formation, ni l'apprentissage n'est pas développé comme il le devrait et la formation ne répond pas aux besoins des entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire dans les régions et croyez-moi, nous les ferons incontestablement très différemment et des socialistes et des UMP.
Alors, vos propositions, vous demandez le remboursement des subventions publiques en cas de licenciement. J'aimerais comprendre d'abord quelles sont ces subventions.
Non, mais d'abord.
Et d'un autre côté, attendez, je finis. Si les entreprises licencient, c'est qu'elles vont mal. Donc si vous leur tirez les subventions, elles vont aller encore plus mal. Donc non, mais c'est pas un peu un effet d'annonce des YACA.
Non mais excusez-moi, madame, moi je suis contre les subventions aux entreprises, les subventions sèches.
Voilà. C'est quoi,
je pense que l'argent public n'est pas là pour subventionner de manière
Mais vous parlez de quelle subvention donnez-moi
un exemple. Ça fait 15 ans que ça se fait dans le programme du Front National. Ça a été appliqué d'ailleurs à notre, j'allais dire, sur notre initiative, appliqué par un certain nombre d'exécutifs socialistes depuis bien longtemps. On ne subventionne pas de l'argent public à des entreprises pour leur permettre de licencier ou de dégraisser après en s'appuyant sur l'argent public. C'est quand même la moindre des choses.
Est-ce que vous êtes marxiste, Marine Le Pen ?
Non, mais vous sûrement.
Ça m'avait échappé.
Mais
alors, je pose la question parce qu'il y a un évident
tollé
dans les
Hauts-de-Seine. En revanche, permettez-moi, excusez-moi, parce qu'on parle de choses sérieuses et on n'est pas dans la galéjade.
Mais Dominique n'est pas dans la galéjade.
En revanche, permettez-moi, ce qui est parfaitement possible de faire, c'est faire des avances remboursables à un certain nombre d'entreprises qui, à un moment donné, sont en difficulté et se retrouvent obligées de se tourner vers la région. Mais l'idée, c'est évidemment de se voir rembourser lorsqu'il y a retour à meilleure fortune. C'est ça l'utilisation respectueuse de l'argent public.
Alors, Dominique, vous posez une question, Marine Le Pen.
C'est une anecdote, mais on vous la pose parce qu'elle fait écho à un débat qui est aussi autour et dans votre parti. Marxiste, c'est l'adjectif que vous colle un élu d'Antony qui vient du Front de Gauche, qui a quitté son parti pour le vôtre, en disant que votre parti est le dernier à avoir une analyse marxiste de la société et à défendre un discours sur la lutte des classes. Alors, je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier sur...
J'ai jamais défendu un discours sur la lutte des classes. Maintenant que nous soyons arrivés dans un système où aujourd'hui l'immigration, par exemple, est utilisée comme la réserve de main-d'œuvre à bas coût du capital, l'armée de réserve, ça me paraît être tout à fait une évidence. Et c'est un débat qui traverse pas seulement la France, mais l'ensemble des pays. C'est un débat qui fait rage en Allemagne, d'ailleurs, où beaucoup de syndicats s'opposent à cette immigration massive, car ils soupçonnent, je crois à juste titre, le patronat de chercher à obtenir une main-d'œuvre à très bas coût, à meilleur coût que cette immigration d'Europe de l'Est, ces travailleurs détachés, dont l'Allemagne a beaucoup usé, hein, dans le cadre d'une concurrence que je considère comme déloyale au sein de l'Union européenne.
Mais tout de même, on a du mal à comprendre un petit peu le positionnement économique aujourd'hui du Front National. Si on vous posait cette question sur le marxisme, c'est une petite provocation, mais on a l'impression qu'il y a deux discours aujourd'hui. Il y a le discours plutôt de Florian Philippot, qui est un discours plus étatiste, plus marqué à gauche économiquement, et celui d'une base électorale, et celui de certains élus du Front National, qui est plus une base, une vision libérale de l'économie.
Je crois que c'est une vision tout à fait caricaturale du Front National, car le Front National, en même temps, considère que nous devons avoir un État stratège et en même temps est un défenseur de la liberté, bien entendu, de l'économie et un défenseur de l'entrepreneuriat. Mais dans le cadre de cette liberté économique, l'État a un rôle à jouer. Il doit jouer le rôle de celui qui évite les abus, de celui qui évite les dérives, de celui qui met en place aussi, car c'est nécessaire, un protectionnisme intelligent à nos frontières. Ça n'est absolument pas contradictoire. Et croyez-moi, il y a que les journalistes qui voient une fracture entre les uns et les autres. Moi, pour diriger le bureau politique depuis déjà un certain nombre d'années, je n'ai jamais vu de divergence entre les différents dirigeants du Front National.
Vous auriez été anglaise, vous auriez partie travailliste, vous auriez voté pour Jérémy Corbyn. Est-ce que vous signez en bas de la page? Il est comme vous, il est très, très étatiste, il veut tout renationaliser.
Non, très honnêtement.
Il est très anti-américain.
Non, mais là, très honnêtement, enfin, moi, je signerais plutôt en bas de la page du UKIP, en l'occurrence en Grande-Bretagne.
Qui a refusé de faire alliance avec vous.
D'accord, mais ça, ce sont des histoires politiciennes, de lutte d'influence, qui ont en réalité assez peu d'importance.
Je vous parlais du programme économique de Corbyn, vous êtes pas, il n'y a rien à redire, selon... Enfin...
Mais je pense que comparaison n'est pas raison, madame. Je pense que les États, les nations ne se ressemblent pas. Je pense qu'elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même culture, et notamment pas la même culture économique. Or, la France, je suis désolée, mais la France, c'était la vision de De Gaulle. Moi, je veux pas en appeler à De Gaulle tout le temps parce que ça va finir par faire un peu ringard. Mais la vision de De Gaulle, c'était celle-là. C'était celle d'un État stratège qui jouait son rôle et qui permettait justement aux entrepreneurs, aux entreprises de pouvoir se développer en les préservant aussi d'une concurrence lorsque cette concurrence était déloyale. Donc, le rôle d'un responsable politique français, c'est de préserver l'emploi français, c'est de permettre le développement de l'économie française, et c'est exactement le sens du projet qui est le mien.
Dominique Albertini. Au FN, des gens qui pensent que la ligne économique du parti est le dernier obstacle au ralliement d'un nombre important d'électeurs UMP vers vous.
Eh bien, ils se trompent.
Ils se trompent.
Voilà, je pense qu'ils se trompent, car, enfin, si tant est qu'à l'UMP, il reste encore quelques gaullistes, mais je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. Encore une fois, s'ils regardent la vision économique qui était celle de Gaulle, la vision de l'indépendance et de l'État stratège, eh bien, ils se rendront compte que ce programme-là est celui que veut appliquer le Front National.
Allez, rapidement, on va parler de votre parti, le Front National, on va s'intéresser un petit peu aux idées. L'économie, on en parlait là, vous en parlez beaucoup plus que votre père ne le faisait par le passé. Un autre thème que vous mettez plus en avant que lui, c'est celui de la laïcité. C'est ce qui ressort d'un livre qui vous est consacré, Marine Le Pen prise au mot, c'est son titre. Dans cet ouvrage, Cécile Albuy, professeure de littérature à Stanford, a comparé vos discours à ceux de votre père.
C'est la fille de l'homme politique, il me semble.
De l'ancien maire de Perpignan.
La fille.
Résultat, on perçoit des différences notables dans le discours. Exemple donc avec la laïcité. Pourquoi mettre à l'avant ce thème-là? Eh bien, on écoute les explications de Cécile Albuy et on vous fait réagir après.
Cette thématique de la laïcité chez Marine Le Pen, elle participe de cette dédiabolisation et de cette républicanisation de l'image du Front National. Mais quand on regarde dans le détail, donc qu'est-ce que veut dire le mot dans le discours de Marine Le Pen, c'est une laïcité qui est avec une cible unique, qui est l'islam, et qui n'est pas tout à fait la même que celle qui est dans les textes de loi actuelle en France, puisque c'est une laïcité qui s'appliquerait partout, dans n'importe quel espace public, dans la rue, dans le bus, et qui, d'autre part, n'est pas la protection de la liberté de conscience et du droit de s'assembler pour pratiquer une religion, comme est la laïcité en France aujourd'hui, mais uniquement une restriction sur les libertés religieuses, essentiellement de la communauté musulmane.
Marine Le Pen, est-ce que vous n'utilisez pas le concept de laïcité pour combattre l'islam ?
Non, mais elle utilise ce bouquin pour combattre le Front National. Ça, c'est une certitude, car cette analyse est en même temps fausse, idiote et tout à fait injuste. Nous défendons la laïcité parce que nous croyons à la laïcité. Il se trouve qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais moi j'invente pas des choses, hein, aujourd'hui, ceux qui...
On voit beaucoup de dérapages islamophobes.
Ceux qui... pour aujourd'hui se constitue en groupement politique pour réclamer la fin de la laïcité ou les violations multiples à la laïcité, ce sont les groupes politico-religieux des fondamentalistes islamistes. Voilà. Donc moi j'invente pas, si vous voulez, je ne me bats pas contre des moulins à vent, je me bats pour préserver la laïcité parce que j'y tiens, à l'égard des véritables problèmes et des véritables personnes qui luttent contre elle. Or aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais enfin, il n'y a pas de juifs qui combattent la laïcité, il n'y a pas de catholiques qui combattent la laïcité, ou ils sont si peu qu'on les a à peine vus. En revanche, il existe des groupements politico-religieux qui s'organisent sur notre territoire pour mettre à bas la laïcité, et ces groupements politico-religieux, ils sont les émanations du fondamentalisme islamiste.
Très brièvement, Dominique Albertini.
On peut parfois avoir l'impression d'un deux poids deux mesures. Je prends un exemple. Quand un élu d'un parti quelconque se rend dans une mosquée, on entend parfois des responsables FN parler de communautaristes. Quand un maire FN va à la messe et ne manque jamais de le faire savoir par des photos sur Facebook, on a l'impression que tout ce qui est relié à l'islam est tout de suite classé dans le communautarisme, et tout ce qui est relié au christianisme relève du fait culturel.
Non, mais je pense que c'est vous qui n'avez pas les idées claires.
Ah bon ?
Parce que quand un élu va à la messe, il va à la messe, quoi.
Et quand il le fait savoir sur les réseaux sociaux.
En général, ceux qui vont dans les mosquées, c'est en général pour faire du racolage, pour essayer de récupérer par du clientélisme le vote des musulmans.
Je ne parle pas du messe à titre privé, mais en tant que maire d'une ville. Et quand il le fait le jour de l'Aïd, pour fêter l'opposition à la construction de la mosquée de Fréjus, David Rachline, on parle de David Rachline, ça ne vous pose pas de problème ?
Non, mais attendez, David Rachline, il fait appliquer la loi. Il se trouve que la mosquée de Fréjus ne pouvait pas être ouverte. Il y avait des questions de sécurité, de non-respect des permis de construire. Donc, il est venu protester officiellement contre le fait que la justice a autorisé cette ouverture, alors même que cette ouverture n'aurait pas dû être autorisée. On verra bien d'ailleurs la suite de ce procès. Il est dans son rôle de magistrat, de premier magistrat de la ville lorsqu'il fait cela. Je vois pas le rapport, là, pour le coup, avec la laïcité. Franchement, je vois aucun rapport.
Très rapidement, Marine Le Pen, en 30 secondes, une petite réaction sur ce dérapage de Nadine Morano sur la France, race blanche, qu'elle a prononcé samedi soir. Comment vous réagissez à cette...
Nadine Morano a essayé de reprendre des déclarations du général de Gaulle, assez mal d'ailleurs, il faut bien le dire.
Il y a 50 ans.
Mais, hein. Oui, bah, il vous aura pas échappé d'ailleurs que c'était au moment du débat sur l'Algérie française et que nous étions en désaccord total avec le général de Gaulle, qui expliquait que l'Algérie ne pouvait pas être française parce que précisément on ne pouvait pas accueillir des gens qui n'étaient pas blancs. Eh bien nous étions du côté de ceux qui considérions que l'Algérie devait rester française et qu'il n'y avait pas de question de race dans cette affaire. C'est nous également qui avons défendu les harkis qui ont été abandonnés en l'occurrence par le général de Gaulle. Donc vous voyez que même lorsque le général de Gaulle il y a 50 ans a tenu cette phrase, nous étions en désaccord avec lui. Moi je crois que l'UMP, je pense que Nadine Morano a un rôle à jouer qui lui a été donné par Nicolas Sarkozy, qui est celui de faire du gros rouge qui tâche. Car Nicolas Sarkozy pense que les électeurs du Front National sont des fronts bas, et que si on fait du gros rouge qui tâche, on va peut-être réussir à les attirer vers Nicolas Sarkozy. Eh bien, il se trompe, car les électeurs du Front National sont des gens intelligents, et honnêtement, ils ont bien vu l'énorme provocation grossière de Mme Morano.
Allez, il nous reste une minute, une grosse minute. On n'aura pas eu trop le temps de faire la dernière séquence de l'émission avec les questions un petit peu plus personnelles. Je vous en posais une tout de même. Est-ce que vous avez vu, rencontré ou eu au téléphone récemment votre père ?
Ça vous regarde absolument pas.
Est-ce que vos rapports sont...
Et vous, en fait.
Est-ce que vos rapports sont prêts à s'arranger ?
Mais ça ne vous regarde pas, ça. Enfin, en quoi ça vous regarde ?
C'est l'ancien président du Front National, il a été
ça
aussi...
Ça n'est pas la question que vous m'avez
président
ça n'est pas la question que vous m'avez posée.
Alors, est-ce que vous avez eu des rapports récemment avec l'ancien président et le président fondateur du Front National ?
Non.
Roselyne Fèvre, très rapidement une question, très rapidement une question en 20 secondes.
On remarque que chez les Le Pen, vous avez une tendance à vous autodétruire. Est-ce que de l'intérieur, plus que
20 secondes.
Voilà, de l'extérieur, est-ce que Marion Maréchal Le Pen deviendra un jour présidente du Front National et vous mettra dehors? Vous avez peur d'elle?
Non, j'ai absolument pas peur de Marion. Je trouve que c'est une jeune fille extrêmement courageuse et dont le Front National est très fier. Et le jour où il y aura quelqu'un d'autre que moi, que ce soit Marion ou n'importe qui d'autre, qui soit meilleur pour porter les idées qui sont les nôtres et pour défendre le pays,
merci,
eh bien,
beaucoup,
je céderai
Marine
ma place avec un très grand plaisir et avec un très grand sourire.
Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à notre invitation. Bonne semaine à tous à l'écoute de la Radio du Monde.